Les livres sont là, ils apportent une langue différente. Entre eux et nous, il y a les enfants qui, eux aussi, ont leur façon d'entendre et surtout de se taire. Donc on cherche la passe, on cherche l'accord et on trafique. C'est bon. On bricole et on brode. Alors souvent, dans les petits moments de pause, il y a quelqu'un, un bénévole, qui vient vous voir. Et la première fois, la première m'a dit, quand la langue est difficile, je change les mots ou j'explique. Mais ça se dit à voix basse. Voilà. Et d'autres font semblant de poser la question. Peut-on raccourcir le texte, changer les mots, commenter? Joël Turin est catégorique. Non, nous ne brodons pas sur les textes, nous les lisons intégralement. Christian Bruel nuance. Oui, dit-il, on peut commenter à condition que les enfants entendent à la voix que le lecteur n'est plus dans la fidélité du texte, mais qu'il est en train de commenter. C'est donc tout un petit art de la nuance. Donc, on avait cette phrase de Lamartine qui dit que la musique et la poésie ne sont pour ainsi dire que les thèmes sur lesquels chacun brode ses propres sentiments. Vous le savez, parce que vous rencontrez les enfants, qu'ils brodent et qu'eux, ils savent qu'il faut faire dans la dentelle. Alors, je vais vous présenter un enfant qui était un enfant, on va dire, difficile, pas instruit, etc., et que de vieilles dames, excusez-moi, je ne parle pas pour nous, hein, mais avait décidé de rendre lecteur. Alors, elles lui ont offert l'île au trésor. Et comme il avait du mal à le lire, il leur a expliqué ce que lire signifiait pour lui. J'avais mon sandwich que j'avais emballé dans la dernière Turfist. Regardez ça, Gaddy, Bird, H, 3B, par Heliotrope, par First, Volo et Frangipangi, 5 Deck, 17 Slash, 1 P, Rec, et Monsieur Georges Strenfellow, 2006, R25, Terre, C, 5, 1, 31, 4, M, D, M, C, M, L, Dar, 8.9, Long, Iram, Heure d'amour, Ike Williams. Elle voulait pas croire que je lisais pour le bon. Pourtant, c'était là, inscrit devant leur nez en toutes lettres, que Gladdy Bird était une pouliche B de 3 ans qui n'avait jamais gagné et qu'elle était de Heliotrope par First Volo et Frangipangi et que la dernière fois qu'elle avait couru, c'était le 5 décembre à 17-1 dans un prix à réclamer à Tropical Park avec George Stringfellow comme monte distance 2600 mètres, poids 53 kg, terrain collant, que le temps du gagnant était 2 minutes 52 secondes et que Gladdy Bird avait mené au départ au petit bois dans la ligne droite, mais qu'elle s'était ratatinée avant le poteau et avait fait au petit bois 8e derrière Iram 2, Heure d'amour et Ike Williams dans l'ordre. L'île au trésor, il m'a tellement possédé ce livre que je ne pouvais plus le quitter. À force, j'avais trouvé un truc à moi pour aller plus vite. Je fermais à moitié les yeux et comme ça j'arrivais à laisser filer les lettres d'un seul coup. À son retour, l'enfant demande à son turfiste d'amis : tu as entendu parler de Long John Silver ? Je ne connais pas, il me répond, probablement un tocard qui court dans les prix à réclamer. Nos univers ne se correspondent pas toujours, heureusement. Alors, comment rendre les livres attachants? Comment les faire entrer dans l'ensemble de la vie, mais avec la vie et pour la vie? Quel livre? Pour qui? Pourquoi? Choisir, c'est trancher. Et d'un seul coup, les mots sont saisissants. À quoi se fier? Est-ce qu'on peut se fier à nos propres goûts? Est-ce qu'on doit se fier aux goûts des enfants? Alors là, c'est très dur. Sophie van der Linden nous a brisé le coup de cœur, disant qu'on ne pouvait pas agir par coup de cœur, puisque l'approche personnelle, dans ce cas-là, l'emporterait sur l'approche professionnelle. Et que l'inconscient, notre inconscient, serait soumis aux séductions du marketing éditorial. Quant aux enfants, qui aiment autant les steaks frites que les charlottes aux fraises, franchement, leur goût les accable. Donc, ne pas choisir nos propres goûts, ne pas se fier aux enfants qui, apparemment, n'ont pas des bons goûts. À quoi se fier? Alors, on a entendu pendant ces 4 interrégionales qu'il fallait des œuvres denses, polysémiques et symboliques. Michel Petit dit, elle, qu'il faut des œuvres grandes et furieuses. Alors, le choix est malaisé. Il y a trop de livres, environ 10 000 titres par an, peu de relais critiques, en tous les cas disponibles pour les gens, et des œuvres embarrassantes. Choisir? On dit les 4 intervenants, c'est d'abord lire profondément un texte, le lire personnellement, l'étudier. Voilà que la sélection s'opacifie et que le repère tremble. Alors est-ce qu'on peut au moins se fier aux tranches d'âge? Ça limiterait un peu le champ. Sophie van der Linden n'est pas contre, Joël Turin carrément contre. Des bébés, dit-elle, peuvent se retrouver dans des albums où des adolescents aiment se perdre. Alors, Christian Bruel a eu cette phrase mémorable, qui alors décide du meilleur de la crème de la crème. rajoutant tout de suite que tant que le capital économique ne serait pas partagé, le capital culturel ne le serait pas. Car les livres, bien sûr, portent une idéologie, sont fermés. Voilà trois exemples qui ont été donnés au cours de ces quatre réunions. D'abord, Christian Bruel dit que le féminin est limité au maternel, on est femme si on est mère, l'amour au couple hétérosexuel est forcément fécond, les consensus sont mous, pas de dominant, pas de dominé, les égos des personnages sont exacerbés, les luttes sont sans aucun secours solidaire ni recours institutionnel. Si tous les goûts sont dans la nature, toutes les vies, tous les possibles n'y sont pas. L'imaginaire est pris dans un idéal idéologique de la production. Deuxièmement, ça c'est une étude de Anne Duflon-Novel, les héros masculins dominent dans cette littérature. Ils sont représentés généralement par des héros puissants, typiques du monde enfantin. Les héroïnes, elles, sont représentées par des petits animaux et souvent par des insectes. Ces orientations limitent forcément le choix des filles parce que les enfants préfèrent en général un livre dont le héros a le même sexe qu'eux, mais restreignent aussi les modèles puisque l'on dit que le héros attirerait les deux sexes tandis que l'héroïne n'attirerait seulement les filles. Il y a une enquête qui a été faite sur Harry Potter et les filles ne sont pas les moindres à défendre ce présupposé. Le Krilge a fait un colloque sur le travail, la représentation du travail dans la littérature de jeunesse, je vous conseille vraiment d'y aller, et il dit le travail qui structure la vie quotidienne des enfants est un thème peu demandé chez les libraires et chez les bibliothécaires. Pourtant, ça a un rôle très important. Les rôles professionnels sont toujours tournés vers l'action, on agit, ce sont souvent des artisans. Ils sont sexuellement et ethniquement répartis. L'instruction permet de fuir la condition ouvrière. Quant au chômage, il est pratiquement peu évoqué. Alors, de quels livres ont besoin les enfants ? Des livres qui parlent du monde, des livres qui parlent de l'imaginaire ? Claude Bougeon, dans un beau livre, avait déjà donné la solution. Tu vois, remarque Enert, ce sont deux lapins. Les livres, c'est très utile. Il faut vite en trouver un autre, dit Victor. Oui, un gros bien solide, avec de belles histoires dedans, conclut Ernest. Avec leurs gros livres, ils avaient pu rêver pendant des heures dans leur grotte, mais surtout assommer le renard qui était venu les manger. Les livres, c'est quelque chose qui nous aide à nous battre contre les menaces extérieures et aussi contre les plus difficiles qui sont les menaces intérieures. Donc, ce qui s'est beaucoup dit pendant ces quatre jours, c'est comment être sûr que les enfants comprennent ce que l'on leur lit, comment se comprendre. Joël Turin dit « D'abord, on ne lit pas aux enfants, on lit avec des enfants qui n'entendent pas les histoires, mais les écoutent à leur façon, en s'échappant physiquement, mentalement. » Elle cite le cas de ce petit enfant de 5 ans qui n'écoutait aucune histoire, mais qui a passé toute une après-midi à dessiner des archipels entre des albums qui parlaient d'eau, de navigation ou de graines. Elle a aussi parlé d'un enfant terrible que personne ne voulait plus, même pas la lectrice, de lire et faire lire, tellement il cassait tout, etc. Et qui un jour a été stoppé net par la lecture de Loulou de Grégoire Solotarev. Alors pourquoi ? Eh bien parce que ce petit Loulou a été abandonné parce que son oncle est mort alors qu'il était encore novice et qu'il n'était pas encore initié aux lois du monde. Qu'a fait ce tout petit ? Il a trouvé un encore plus petit que lui et il a passé des après-midi à lui lire et à lui relire Loulou, autrement dit à l'initier. Lire ensemble, c'est une épreuve d'altérité, et vous l'entendrez beaucoup, je pense, dans la table ronde, où l'instant, un tout petit instant, peut vibrer avec toutes les grandes vibrations du monde. Regardez par exemple ce thème de la migration, qui est difficile, hein, on a encore expulsé une jeune collégienne aujourd'hui, voilà, donc ces migrations, c'est des choses, on va dire, douloureuses. Dans Lettre à l'ours, voilà ce que dit l'ours. Mon oiseau, es-tu bien arrivé dans le sud ? Sur ton lit, le soleil, tu me manques déjà, j'ai tellement aimé cet été avec toi. Pourquoi faut-il que tu migres chaque année ? C'est bon ? On voit que l'ours est au féminin ? Oui ? Tout le monde entend dit quand redeviendras-tu de Barbara ? Oui ? Autrement dit, cette migration, elle est un peu du féminin envoyé vers le masculin. Autre migration chez Philippe Corentin. Dis maman, pourquoi Ginette part-elle en Afrique et pas nous ? Parce que ton ami est une hirondelle et que les hirondelles se nourrissent d'insectes et qu'en hiver il n'y a d'insectes qu'en Afrique. Admirez les phrases de Corentin. Ce n'est pas juste, je veux aller en Afrique. Autre migration que celle des enfants qui sont toujours en train d'échapper un jour à leurs parents. Mais, personnage récurrent, la femme, le féminin, qui attend le retour du masculin ou le retour des enfants. Position d'attente attribuée aux femmes depuis la nuit des temps. Alors, les lecteurs avancent comme ça sur des terrains mouvants. Une féministe ne lira pas ces textes-là de la même façon que quelqu'un qui trouve que c'est très très bien écrit, etc. Donc, il y a deux sources arbitraires. Christian Bruel et Sophie van der Linden en ont beaucoup parlé. La première est textuelle. Le texte, lui, il nie, il affirme mais il nie, il conjugue, il généralise. L'image, elle, associe et compare. Alors, c'est difficile de lire dans ces deux langages, et entre ces métissages, le sens n'est jamais stable, mais est-ce que ça a de l'importance? Regardez ce texte de Sartre dans les mots. « Couché sur le tapis, dit Sartre, il était tout petit. J'entrepris d'arides voyages. Les phrases me résistaient, il fallait les observer, en faire le tour, feindre de m'éloigner et revenir brusquement sur elles, et les surprendre hors de leur garde. La plupart du temps, elles gardaient leurs secrets. Apocope, chiasme, parangon, sans autre qu'affre, impénétrable et distant, surgissaient au détour d'une page et leur seule apparition disloquait tout le paragraphe. Ces mots durs et noirs, je n'en ai connu le sens que 10 ou 15 ans plus tard, et même aujourd'hui, ils gardent leur opacité, mais c'est l'humus de ma mémoire. » Alors, quels sont les livres qui vont comme ça créer un terreau, fabriquer une intériorité? Quels sont les livres qui nous font accepter une compréhension intranquille? Alors, on va entrer dans l'avant-dernier thème qui était lire, mais aussi, le mot n'existe pas, littérariser les enfants. Hervé avait pris un joli terme qui s'appelait, Hervé Moello, pardon, l'imaginaire, les traits, comment les faire entrer en littérature. Alors là, on a eu vraiment, aussi bien de la part de tous les intervenants, cette idée que le texte est là avec des transgressions, avec des traverses. Les textes de plus en plus s'échappent, mais le récit aide les enfants à rester dans une structure, une linéarité, un ordre. Par exemple, on retrouvera dans des textes les plus farfelus les matrices des contes que l'on connaît. Voici un extrait de Bou et les trois ours. « Catastrophe !» s'écria Bou. « J'ai caminé longue lontano tropé. Oussama casa, il noctait et je me suis perdité. Euyadan autour d'elle, elle visa un lumiluce qui brillait entre les arbres. Elle proxima jusqu'à une casa piquinote. Elle gonca, toca, ma nul ne respondit. Alors elle poussa la porte et entra à la casa. Un bon fogo crépillait dans la cheminée. Sur la table, trois bols de sope à l'oli fulminé, un gigambig, un médio et un piquinote. » Et je me revois un tout petit dire, je la connais. Je la connais. Les enfants, ils connaissent tout, on leur très bien dit, je la connais. Voilà, toujours est-il que cette belle histoire des trois ours a été reprise par Anthony Brown dans une autre histoire, rappelez-vous. Les parents ours s'engueulent tout le temps pour la voiture, je sais pas quoi, ça va pas dans le couple. Et tout d'un coup, on se dit, ah mais oui, c'est donc ça, ils ne partageaient pas le même lit. Qu'est-ce que c'est que ces parents qui dorment l'un dans un grand lit, l'autre dans un moyen et le petit dans le petit? Il y avait de l'eau dans le gaz. Et donc, la parodie, et nous avons beaucoup de parodies, est utile si elle nous aide à lire les sources premières autrement. Joël Turin nous a donc dit « On ne peut pas lire des livres avec des images sans comprendre que l'histoire est dans la masse, dans les formes, dans les couleurs et dans le scénario. Ça passe partout, ça va donc poser certains problèmes. » Et le lecteur, dans tous ses trous et tous ses interstices et ses blancs, c'est lui qui va apporter, grâce au texte, de la continuité, de l'homogénéité dans toutes les propositions. Avec le livre, on pose les choses de la vie, on les redispose, on les redéploie et on ouvre des possibles, extrait de Claude Ponty. Lorsqu'il a trouvé un livre ouvert qui lui convient, le bébé change tout pareil, quitte son œuf. Il entre dans le livre ouvert, il passe un certain temps et ressort quand le temps passé est certain. Le monde vu avant d'entrer dans le livre n'est pas tout à fait le même que le monde vu après. Les vrais livres ont cette magie-là. Mille secrets de Poussin. Mais là, on va aller sur des œufs. Dans un autre livre, L'arbre sans fin, Claude Ponty a essayé d'expliquer ce qui change, en fait, quand on vit une aventure intérieure. On se rappelle de L'arbre sans fin, où Hippolène, au début, avait rencontré Ortique, le méchant Ortique. Au retour, le monstre la terrorise. Oui, mais au retour, Hippolène n'est plus la même. Il lui dit « Je n'ai pas peur de toi ». Elle répond « Moi non plus, je n'ai pas peur de... » Je viens de vous faire gagner 5 séances de psychanalyse, au moins. Donc vous pouvez donner un don, lire et faire lire. Autrement dit, les livres ont cette magie-là de nous aider à vivre un peu les peurs intérieures et peut-être de vivre avec elles. La littérature de jeunesse a donc, et pendant ces quatre interrégionales, été présentée massivement sous deux ans. D'abord du côté des lecteurs, et ça c'est beaucoup Sophie van der Linden qui l'a défendu. La littérature masque ses motifs et elle procure par le grain, par le format, par la couleur de l'émerveillement, de l'effet de surprise qui décuple l'activité des enfants et du jeu grâce à l'interprétation. Du côté de Christian Bruel, on avait plutôt un regard du côté de cette production dont il dit qu'elle est fondée historiquement, on n'a pas écrit par hasard pour les enfants ni n'importe quand, et que ce discours a toujours été et est toujours très contrôlé. Autrement dit, les thèmes, jamais anodins, sont parfois extrêmes. Il y a de la grâce dans les livres pour enfants et heureusement, on y trouve parfois de la noirceur. Alors, parler des livres, disent ces quatre intervenants, il faut en parler avec émotion, mais ça, c'est pas la peine qu'on vous le dise, je crois. Et les enfants s'engageront, ils s'embarqueront avec des passeurs et pas des interprètes. Donc, voilà, de Daniel Sanzé, donc, qui était le comédien de la dernière rencontre. On va passer à la... Christian Bruel dit qu'il faut poser des choix exigeants, même si les enfants s'en croient éloignés, et les laisser voir dans l'œuvre ce qu'ils veulent, loin souvent des visions d'adultes. Et voilà, on a mis Daniel Sanzé, mais c'est Christian Bruel. Toute rencontre est une distance, un blanc, il faut franchir, et on a besoin de passeurs. La dernière intervention s'appelle « Lire à haute voix ». Elle était donc à Toulouse, mais je crois que les quatre intervenants en ont parlé. Pourquoi ? Parce que la voix, votre voix, eh bien c'est là que passent les histoires et c'est là que vont se jouer les choses. Il faut donner ses sens au rapport à l'autre, dit Daniel Sanzé. Et donc, il cite Elsa Triolet en disant « Le texte écrit, couché au son de la voix, se lève et marche ». On a donc eu beaucoup cette affirmation. Quand on lit un texte, il faut servir le texte, il ne faut pas s'en servir. Et Daniel Sanzé s'est insurgé contre ses lecteurs qui se tordent dans tous les sens. Voilà ce qu'il dit. Je ne supporte pas qu'on se torde, on ne peut pas respirer, on a mal au cou, les enfants ne voient pas notre visage. Alors, comment lire ces livres avec images ? Dans l'exposition, vous avez un très beau panneau sur les livres sans texte. Alors, il y a, on va dire, deux méthodes qui se sont développées. La première de Christian Bruel, il faut d'abord montrer les images, laisser leur musique s'installer, et Daniel Sanzé, lui, montre les images aux enfants, laisse les enfants inventer leur propre scénario et ensuite le confronte avec le scénario du livre. Vous voyez que les choses sont à l'invention et au premier mot, le lecteur, vous, c'est quelqu'un qui a déjà bien préparé son texte. Il sait où sont les pièges, il sait où est l'architecture du texte et au moment où on lit avec les enfants, on a tout oublié. C'est exactement ce qui vient de m'arriver puisque j'ai beaucoup préparé cette table ronde et ce matin, j'ai tout mis les papiers à la poubelle puisque maintenant va arriver ce qui est spécifique à la lecture, l'imprévisible. Voilà, donc je vous remercie. Je remercie les intervenants. On m'a fait le cadeau de choisir mes intervenants. J'avais jamais fait ça de ma vie. C'est la preuve qu'on vieillit un peu ou qu'on est quelqu'un d'important. Alors, je vais vous présenter les trois intervenants. Et franchement, il y a de quoi se régaler. Excusez-moi de vous prendre pour des friandises. Donc, on va demander à Michèle Petit de venir. Donc, Michèle Petit, bon, on peut dire qu'elle est anthropologue au CNRS, qu'elle a écrit énormément de choses. J'ai lu son livre « L'art de résister », il est en vente ici. Elle a travaillé dans les conditions avec des lecteurs en grande difficulté, mais extrême. C'est chaleureusement écrit, c'est intelligent. Et franchement, quand on entend ces textes-là, on se dit « Bon sang, mais ces livres-là devraient être lus partout et tout le temps ». Et elle a aussi écrit un livre, et là, je pense qu'elle a pris des sacrés risques, sur ses lectures d'enfance. Et vraiment, il est aussi ici. Allez voir, parce que ça vous donnera l'occasion de regarder aussi pourquoi vous êtes là. Le deuxième, on va prendre Bernard. Est-ce que c'est Bernard qui a que... Non, c'est Bernard. Allez, Bernard Friot, bon voilà. Ça, c'est aussi une grande chance. Bernard, comme Michel, se déplace peu, donc ils sont avec vous tous les deux aujourd'hui, vraiment coup de force. Alors Bernard, bon, il est auteur, traducteur, il a été aussi professeur d'école normale, donc ce qui veut dire que tu étais plus vieux que moi. Voilà. Voilà. Si Michel travaille dans différents pays, dont l'Amérique du Sud, Bernard hante l'Allemagne. Olivier, c'est un traducteur réputé, l'Italie. Et il écrit des poèmes, il écrit des histoires, il écrit aussi des outils pour que l'on puisse faire écrire les enfants. Mais alors, il a une particularité, je ne sais pas s'il va apprécier que je le dise là aujourd'hui, c'est que si vous êtes avec des enfants, vous lui écrivez, il vous répond. Mais il ne vous répond pas un petit mot. Il discute, puis les mômes, ils continuent. Et bien lui, il continue à répondre. Et voilà que tu as été embarqué dans une petite école du Gers. Voilà, où il y a 70 enfants dans cette école. Et que personne n'en revient de recevoir des mails de Bernard Friot tous les jours. Le dernier s'appelle de la table ronde, Hervé Moello. Donc voilà, c'est un ami, on va dire. Je le connais depuis qu'il est tout petit, puisqu'il a été objecteur de conscience à l'AFL. Est membre de l'Association française pour la lecture. Il dirige aujourd'hui le centre ressources de Nantes, Ville Lecture, qui a été Ville Lecture, quand M. Hérault était maire de Nantes, avec l'Association française pour la lecture, il a eu le prix. Non ? De choses qui fâchent ? Bon. Alors donc, Hervé dirige ce centre. Vous pourrez aller sur le site de ce centre qui est très riche. Et notamment, Hervé fait des choses vraiment impressionnantes. Beaucoup d'écrits très courts, fondés sur le quotidien, l'observation du réel, avec des tas de carnets de toutes sortes. Voilà, c'est vraiment une... Comment on va dire une. Il vient de soutenir une thèse brillamment, mais ça, on n'attendait pas moins de lui. Et je pense que, on conviendra de tout ça. La matinée va commencer par une conférence de Michel Petit d'une heure, pendant laquelle on va écouter, et puis ensuite la table ronde. Pour pas que vous soyez venus uniquement pour vous montrer comme des mannequins, est-ce que vous voulez dire un mot, sur comment vous allez concevoir la journée très vite, votre intervention ? C'est juste pour pas vous prendre pour des mannequins.
Eh bien, j'espère que ce sera un échange avec aussi des épines. Hein, j'ai déjà réagi ce matin en entendant certaines choses. Et donc, je pense que c'est bon de débattre. Et je préviens toujours, je suis parfois très affirmatif, mais en général, quand je suis affirmatif, c'est sur les points dont je suis le moins sûr. Mais déjà, ce matin, j'ai... tous mes piquants se sont dressés quand j'ai entendu parler de vrais livres. Hein, parce que, voilà... Comment dire, spontanément, j'ai envie d'aller voir les faux livres dans ce cas-là. Hein, et par réaction, de même, parce que j'entends parler des vrais écrivains, et j'ai plus envie d'être faux écrivains, etc., etc. Les vrais lecteurs, les faux lecteurs m'intéressent davantage, etc. Donc on va, je pense, échanger et peut-être s'envoyer quelques piques, mais gentiment.
Ça me plaît bien de faire ça. Moi, je serais assez aussi... comme on parle de littérature, je serais assez pour parler de non-littérature. Et moi, je travaille aussi beaucoup sur la manière dont on est tous très attirés par la littérature. Et je me demande, il y a quand même d'autres choses que la littérature, y compris en lecture. Et donc, je sais que toi, tu distingues aussi le livre et la lecture. Et moi, je distingue aussi la lecture de la littérature. Donc je suis assez pour aussi dialoguer là-dessus. Et enfin, moi j'ai préparé des choses, mais je m'attends aussi à un dialogue.
Oui, hein, complètement.
Donc je suis aussi venu pour discuter, du coup, pour réagir sur le vif avec vous et puis avec vous aussi.
Alors ce n'est pas du masochisme de ma part, ni une prise de pouvoir, bien que, mais j'ai choisi Hervé et Bernard parce qu'on n'est pas tout à fait d'accord sur les choses. Voilà, donc c'est comme ça que ça va être intéressant. Merci, on va donc t'écouter, Michel.
Je crois que celui-ci ne marche pas. Ça va, là ? Oui, bonjour. Je ne suis pas sûre que ça marche. Ça marche ? Si ? Non ? Pardonnez-moi, je n'ai pas la jeunesse d'Ivan, je suis absolument incapable de tenir une heure debout derrière un micro, donc je vais rester assise, peut-être que certains d'entre vous comprendront, voilà. Donc bonjour à tous, avant toute chose je voudrais bien sûr remercier Lire et Faire Lire, remercier Alexandre Jardin, Michel Bobby-Malzac, Laurent Piolato, je ne sais pas où il est passé, Cécile Cornalia aussi, et puis bien entendu remercier aussi Ivan Chenouf de tout son travail de préparation et de ses paroles. Alors moi je suis effectivement anthropologue au CNRS et j'ai mené pendant près de 20 ans des recherches sur les pratiques de lecture et le rapport à la culture écrite, particulièrement dans des lieux où l'accès à cette culture écrite n'était pas donné, n'allait pas de soi. Qu'il s'agisse en France de régions rurales éloignées des équipements culturels ou de quartiers populaires en périphérie urbaine, ou encore, comme le rappelait Ivan, en Amérique latine, d'espaces qui sont l'objet de conflits armés, de déplacements de population plus ou moins contraints ou de crises économiques intenses. Et lors de ces recherches, moi, ce qui m'a intéressé, c'est d'essayer de prendre en compte les expériences singulières des enfants, des adolescents ou des adultes que je rencontrais en les écoutant parler lors d'entretiens approfondis, aussi ouverts et libres que possible. Et comme ils évoquaient beaucoup, de façon spontanée et détaillée, les biais par lesquels des textes lus les avaient aidés à se construire ou à se reconstruire dans l'adversité, et cela même s'ils ne lisaient que de très loin en très loin, eh bien j'ai tenté d'approfondir un peu l'analyse de ces dimensions. Et c'est comme ça que je serais devenue, m'a-t-on dit plusieurs fois, je cite, l'un des rares chercheurs qui travaille sur le fondement de l'importance de la lecture. Alors, c'est vrai que l'importance de la lecture, c'est quelque chose qui est rarement explicité, comme si cela allait de soi. Et pourtant, je vous livrerai ici cette scène qu'une amie, Henriette Zoughebi, m'a racontée et à laquelle elle avait assisté. Un petit garçon regardait son institutrice qui était plongée dans un livre. Intrigué, il s'était approché d'elle et il lui avait posé cette question. « Maîtresse, pourquoi tu lis puisque tu sais lire ?» Et bien des enfants ont le sentiment de devoir en passer par certains apprentissages sans en saisir l'enjeu, le sens, comme s'il était une logique, voire des lubies propres à l'école et aux adultes, auquel il faudrait se soumettre sans chercher à comprendre. Mais enfin, s'il est un apprentissage dont la nécessité fonctionnelle, l'utilité sociale, pour ne parler que de ça pour l'instant, pourrait sembler manifeste, n'est-ce pas celui de la lecture et de l'écriture ? Dans nos sociétés, l'écrit n'est-il pas omniprésent ? Est-ce qu'il n'accompagne pas nos gestes quotidiens ? Eh bien, ce n'est pas le cas pour tout le monde. Et quand j'ai commencé à travailler sur la lecture, il y a une vingtaine d'années, en menant des recherches en milieu rural en particulier, j'ai été surprise de constater que dans certaines régions, lire pouvait s'avérer impossible ou risqué parce que cela ne servait apparemment à rien justement, parce que l'utilité de cette pratique n'était pas avérée. Et la plupart du temps, dans ces régions où j'enquêtais, les gens qui lisaient se cachaient pour lire. Toute chose que j'ai retrouvée quelques années plus tard dans des quartiers populaires en périphérie urbaine où il était souvent reproché aux filles qui aimaient lire d'être des égoïstes et aux garçons de s'adonner à un loisir de filles. Mais au-delà même de ces milieux, je ne compte plus les fois où on m'a lancé ces dernières années dans des rencontres comme celle-ci parce que justement la réponse n'allait pas de soi. À quoi ça sert de lire ? Pourquoi lire aujourd'hui ? Pourquoi inciter des enfants à le faire ? Et donc, avant de nous demander comment devenir lecteur, je vous propose que nous attardions un tout petit peu sur cette autre question. Pourquoi tenons-nous tant à ce qu'ils deviennent des lecteurs ? Alors, au cours des 30 dernières années, vous le savez, c'est la rentabilité scolaire qui a été au cœur de la plupart des interrogations sur la lecture. On s'est demandé si le fait que les élèves de milieux aisés lisaient plus de livres que les autres contribuait à leur meilleure réussite scolaire, si la lecture était propice à de meilleures performances dans l'acquisition de la langue, l'orthographe, la syntaxe, si elle introduisait à des compétences spécifiques. Précisons-le au passage, cela semble avéré, même si certains sont bons élèves sans être lecteurs ou l'inverse. Et récemment, les résultats de l'évaluation internationale PISA ont confirmé que la lecture était un investissement pour la réussite scolaire. Au début du primaire, ce sont les enfants auxquels leurs parents font la lecture plusieurs fois par semaine ont obtenu des scores supérieurs à ceux dont les parents ne lisaient jamais ou rarement. En secondaire, plus les adolescents prennent plaisir à lire sur papier et en ligne, et plus ils sont performants en compréhension de l'écrit. la lecture, si vous voulez, casserait un peu les déterminismes sociaux, un peu. Hein. Les jeunes de milieux populaires qui s'investissent beaucoup dans cette activité obtiennent en moyenne de meilleurs scores que ceux de milieux plus nantis, mais qui s'intéressent peu à l'écrit. Et si, un peu partout, les garçons ont en moyenne des résultats médiocres en compréhension de l'écrit, ce serait avant tout du fait de leur faible intérêt pour la lecture et l'écriture et de leur manque d'engagement dans la littérature. Alors, le sociologue Stéphane Beau y a aussi insisté, l'hostilité à la lecture dont beaucoup de garçons témoignent serait très préjudiciable à leur cursus scolaire puis universitaire. Je cite Beau, « Le rapport à la culture écrite est un enjeu essentiel de la réussite scolaire, c'est même la clé de tout », dit-il. Même si, bien entendu, beaucoup d'autres éléments entrent en compte, la familiarité avec l'écrit est un facteur décisif du destin scolaire et au-delà du devenir professionnel et social. Car s'il fut un temps où les exigences techniques requises par de nombreux métiers se transmettaient par imitation gestuelle plutôt que par une explicitation langagière où l'écrit a une grande part, ce n'est plus le cas. Et dans l'avenir, quand chacun pourrait être appelé à exercer successivement plusieurs professions au cours de sa vie, un rapport difficile à l'écrit, sur ses différents supports bien entendu, sera encore plus préjudiciable. Alors Stéphane Beau précise, je cite à nouveau, « Le blocage des garçons par rapport à la lecture est une question fondamentale qui conditionne leur accès aux études, mais aussi leur rapport à la politique. » Et il est certain que si l'on est peu à l'aise dans l'usage de la culture écrite, il est beaucoup plus difficile d'avoir voix au chapitre dans l'espace public. Et à cet égard, la contribution de la lecture et de l'écriture à une attitude réflexive et critique, à une capacité d'élaboration et d'argumentation, et par là à une citoyenneté active, a été beaucoup mise en avant par des professionnels au cours des dernières décennies. Toutefois, le fait que beaucoup d'enseignants, de responsables des politiques publiques et de parents voient avant tout dans la lecture une assurance anti-échec scolaire ou un passeport pour une citoyenneté active a des effets pervers. La lecture devient une obligation, on tient des discours bien pensants sur le fait qu'il faut lire, ou pire encore, qu'il faut aimer lire, et les litanies sur le fait que les jeunes ne lisent plus agacent les intéressés qui entendent une volonté de contrôle sur le temps de loisir et d'intrusion dans leur univers. Dès lors, il ne faut pas s'étonner que pour nombre d'entre eux, la lecture soit une corvée à laquelle il faudrait se soumettre pour satisfaire les adultes. Alors parmi les passeurs de la culture écrite, la principale alternative à toutes ces approches utilitaires de la lecture a consisté, vous le savez, à revendiquer le seul plaisir de lire. Ce qui, on l'a souvent remarqué, a aussi des effets contre-productifs. Entendre tout le temps parler de plaisir quand on n'en a jamais éprouvé soi-même peut vous éloigner plus encore de la pratique qui est censée le prodiguer. Mais aux yeux des lecteurs eux-mêmes, qu'est-ce qu'il en est ? Eh bien, c'est plutôt sur d'autres dimensions que celles et ceux que j'ai rencontrés ont toujours attiré mon attention, qu'ils lisent fréquemment ou de loin en loin. Plus encore que sur son utilité scolaire ou sociale, la lecture leur semble se fonder sur une nécessité existentielle, une exigence vitale. Lire leur sert peut-être avant tout à élaborer du sens, à mettre en forme leur expérience ou leur part d'ombre, ou leur vérité intérieure secrète, à ouvrir une marge de manœuvre, à être un petit peu plus sujet de leur histoire, ou parfois à réparer quelque chose qui a été rompu dans le rapport à cette histoire ou dans la relation à autrui. Toutes choses qui vont bien au-delà du plaisir ou de la distraction et qui passent par des biais multiples, par des processus complexes dont je ne ferai évidemment pas le tour ce matin, et me limitant à évoquer rapidement quelques aspects qui, aux yeux de ceux que j'ai écoutés, semblent essentiels, mais dont on parle peut-être un peu trop rarement. Comme ceci déjà, la lecture a beaucoup à voir avec l'espace, avec l'habitat. Elle touche aux assises spatiales de l'être. En écoutant parler des gens de différents milieux sociaux, différents domaines culturels, j'ai toujours été frappée par la fréquence avec laquelle ils recouraient à des métaphores spatiales. La lecture, c'est mon pays. Les livres, c'était une terre d'asile possible. Les livres, c'est ma maison, mon chez-moi. Ils étaient toujours là pour m'accueillir. Je lisais, c'était comme si j'étais dans une cabane perchée dans un arbre, etc., etc. Pour nombre d'entre eux, ce qui est en jeu en lisant, si j'en juge par leur récit, leurs associations, c'est déjà l'ouverture d'un espace, un espace qui est aussi soi, comme plusieurs l'ont mentionné. Tout se passe comme si la découverte par la lecture d'un autre espace, en rupture avec le cadre ordinaire, éveillait l'intériorité, permettait de façonner une sorte d'habitacle où advenir et où ébaucher son propre chemin. Lire ou écouter lire, cela permet déjà de créer ces autres espaces essentiels à l'expansion de soi et à l'oubli de soi. Plus encore pour ceux qui ne disposent d'aucun lieu, aucun territoire personnel. Dans les contextes violents, une part d'eux échappe alors à la loi du lieu. Une marge de manœuvre est ouverte. Car ce qu'ils décrivent quand ils évoquent cette sortie de la réalité ordinaire provoquée par un texte, ce n'est pas tant une fuite, comme on dit souvent de façon dépréciative, qu'un saut dans un ailleurs où la rêverie, la pensée, le souvenir, l'imagination d'un futur deviennent possibles. Pour ceux qui ont perdu leur maison et les paysages qui leur étaient familiers, les livres peuvent être autant de demeures empruntées, un moyen de recomposer ces assises spatiales. Ce que savent bien, du reste, de façon explicite ou intuitive, les bibliothécaires, les enseignants, les psychologues qui en font usage avec des enfants, des adolescents ou des adultes qui sont exilés, déplacés, ou dont le cadre de vie a été détruit ou altéré, comme c'est le cas par exemple en Colombie, en périphérie de Medellín, où des bibliothécaires ont développé un programme intitulé « Le refuge des contes » quand une partie de la population a été chassée par les combats opposant les groupes armés. Alors en gilet pare-balles, une des bibliothécaires, Consuelo Marin, allait ainsi lire à haute voix à ceux qui étaient regroupés dans un collège du quartier. Un matin, elle a entendu des tirs qui se rapprochaient et elle a voulu s'interrompre, mais les jeunes auditeurs exigèrent d'entendre la fin de l'histoire. Je cite Consuelo, « Ces enfants qui passaient leur nuit en pleurant dans les couloirs du lycée, en redoutant le noir, ne voulaient pas perdre la fin du conte, telle une seconde peau de l'âme que l'on ne peut pas enlever. » Tous les vivipares ont leur tanière, écrit Pascal Quignard. Et il ajoute, c'est l'idée d'un lieu qui ne serait pas mien, mais moi en personne. Tous les vivipares ont leur tanière et tous les humains ont besoin, en plus, de l'abri d'une culture. Et les biens culturels et les livres en particulier ont à voir avec la tanière, avec cette seconde peau, cette peau de l'âme dont parle Consuelo. Lire, écouter lire, regarder des illustrations, mais aussi écrire, chanter, dessiner, cela sert à interposer entre le réel et soi tout un tissu de mots, d'images, de connaissances, d'histoires, de fantaisies, sans lequel le monde serait hostile, inhospitalier, inhabitable, même si l'on vit dans des lieux bien plus cléments que ceux où s'affrontent des groupes armés. Cela sert à donner à ce qui nous entoure une coloration, une épaisseur symbolique, imaginaire, légendaire, une profondeur à partir de laquelle rêver, dériver, associer. À projeter sur le quotidien un peu de beauté, de fable, d'histoire, cela sert à nous accorder ou à nous réaccorder au monde par l'ouverture d'une autre dimension. Cela permet de constituer une sorte de réserve poétique et sauvage où on pourra puiser tout au long de la vie pour façonner une petite chambre à soi où rêver, penser, être le narrateur de sa propre histoire. Car c'est souvent longtemps après que des lectures prennent un relief décisif. Il y a un devenir psychique de quelques récits, quelques phrases, quelques images largement recomposées ou transfigurées au fil du temps. Je ne sais plus qui, je crois que c'était Borges peut-être, qui disait que plus qu'un livre, c'est le souvenir d'un livre qui compte, lorsqu'on commence à le changer, à le modifier, à l'imaginer d'une autre façon. En effet, une dimension d'appropriation sauvage, voire de détournement, est à l'œuvre dans la lecture qui n'attend pas la recomposition du souvenir. Elle est immédiate. Vous le savez, dès le plus jeune âge, un enfant ne reçoit pas passivement un texte. Il le transforme, il l'incorpore, il l'intègre à ses jeux, ses petites mises en scène, son théâtre personnel, son monde intérieur. Et tout au long de la vie, de façon discrète ou secrète, tout un travail psychique accompagne la lecture. Les lecteurs écrivent leur propre histoire entre les lignes lues. Dans un colloque consacré à Stendhal, un jeune enseignant afro-américain a ainsi remarqué que quand il lisait Le Rouge et le Noir, Julien Sorel était noir et Madame de Rênal blanche. Sorel redevient blanc quand je suis professeur, précisait-il. D'une façon proche, Paul Auster a dit un jour à sa femme que le roman de Jane Austen, Orgueil et Préjugé, donc qui dépeint la société anglaise du début du XIXe siècle, se déroulait pour lui dans le salon de ses propres parents près de New York. À tout âge, nous squattons tranquillement les textes lus, sans même y penser, tant nous sommes en quête d'écho de ce que nous avons vécu de façon obscure, indicible, et qui quelquefois se révèle, s'explicite de façon lumineuse et se transforme grâce à une histoire ou à une simple phrase. Et telle est notre soif de mots, de mise en forme esthétique, que bien souvent nous imaginons découvrir un savoir à propos de nous-mêmes en faisant dériver le texte à notre caprice, y trouvant ce que jamais l'auteur n'aurait imaginé y avoir mis, tel ce salon près de New York où Auster voit se dérouler l'œuvre d'Austin. Lire à des enfants, leur proposer des livres, c'est une façon de leur dire « tu n'es pas seul avec tes questions, tu n'es pas seul avec tes inquiétudes ». Cela leur permet de découvrir, non pas par le raisonnement, mais par une sorte de décryptage inconscient, que ce qui les tourmente, ce qui les effraye, appartient à tous. Et tout au long de la vie, cela sert à trouver hors de soi des mots à la hauteur de son expérience, des figurations permettant de mettre en scène de façon distanciée ou indirecte ce que l'on a vécu et notamment les chapitres difficiles de son histoire. Cela sert à élucider notre expérience singulière, mais encore à en repousser infiniment les limites en nous permettant d'entrer dans la peau d'un homme, si je suis une femme, d'un gardien de troupeau brésilien ou d'une femme de lait japonaise, si je suis européen, d'un fou, si je me crois sage, ou d'une sainte, si je suis athée. Et comme l'écrivait Valérie, si chaque homme ne pouvait pas vivre une quantité d'autres vies que la sienne, il ne pourrait pas vivre la sienne. Lire, cela sert quelquefois à trouver quelque chose d'inattendu, qui anime la pensée, la narration intérieure, qui permet d'écrire, ne serait-ce que dans sa tête, et c'est là un autre élément crucial dont on ne parle pas assez. La littérature en particulier, mais pas exclusivement, la littérature sous toutes ses formes, mythes et légendes, contes, poésie, romans, théâtre, journaux intimes, bandes dessinées, mangas, albums, essais s'ils sont écrits, fournit un support remarquable pour éveiller l'intériorité, pour mettre en mouvement la pensée, pour relancer une activité de symbolisation, de construction de sens, et elle incite à des partages inédits. Et ce n'est pas l'apanage de quelques nantis qui auraient baigné dès leurs premières années dans la culture écrite. Je vous emmènerai à nouveau en Colombie, où Béatrice Elena Robledo a parcouru le pays pour mettre en œuvre des ateliers fondés sur la lecture et l'écriture avec ceux qui avaient vécu au plus loin des livres. Des adolescents démobilisés des conflits armés, anciens guérilleros ou paramilitaires, des populations déplacées fuyant le conflit armé, des enfants vivant dans la rue ou dans des foyers. Où qu'elle aille, Béatrice Elena a une conviction. La littérature est plus près de la vie que de l'académie. À tous, elle propose toujours les plus beaux albums, les plus beaux poèmes, les plus belles légendes, et elle invente 1000 stratagèmes pour que ces textes se glissent dans leur expérience en portant l'attention à la singularité de chaque rencontre. Un peu partout, les textes lus ouvrent un espace en rupture avec la situation des participants et relance leur activité psychique, leurs paroles et leurs échanges, en leur envoyant des échos du plus profond d'eux-mêmes. Comme pour cet ancien guérillero, Julio, dont on n'avait jamais entendu la voix depuis des années, entendu la voix, et qui, après avoir écouté une légende, parla comme il ne l'avait pas fait donc depuis des années, pour évoquer les mythes entendus dans son enfance, puis pour commencer à raconter sa propre histoire. Ou, comme pour cet autre garçon, lui aussi démobilisé, expliquant comment les ateliers avaient contribué à la formation de sa sensibilité, de son intériorité. Je le cite. « Nous, on a la tête, comment dire ça, emmêlée, comme dans des nœuds. J'ai pu organiser mieux mes idées, penser en ayant plus de calme, sans faire les choses à la légère, mais plus lentement et en apprenant à avoir des sentiments. Parce que là-bas, à la guérilla, nous, ça, on le muselait beaucoup. Et ici, non. Là-bas, on oublie tout simplement les sentiments, ce qu'on a à l'intérieur. Au fil des années, Béatrice Elena a pu prendre la mesure, dit-elle, des infinies possibilités qu'offrent la lecture et l'écriture pour reconstruire le sens de la vie, guérir des blessures, élargir le monde. Avec les plus fragiles, les plus démunis d'attache, elle a observé comment la littérature, cette autre réalité, grâce à l'art de faire d'un médiateur, créait à l'intérieur des participants un ancrage, je la cite, un sédiment de vérité, de certitude affective. Elle a pu observer comment elle devenait une expérience, un espace des possibles, de communication et de convivialité, une autre façon de se confronter au monde, tant intérieur qu'extérieur. Comment une transformation des émotions et des sentiments, une élaboration symbolisée de l'expérience vécue, une projection dans un futur et une entrée en relation avec d'autres étaient, dans certaines conditions, rendues possibles. Alors, ne nous méprenons pas, le monde n'en est évidemment pas pour autant réparé de ses drames, de ses violences ou de ses inégalités, mais une marge de manœuvre est ouverte. Au-delà des textes littéraires, du reste, l'essentiel de la lecture, quand elle n'est pas régie par l'obligation ou l'utilité immédiate, c'est sans doute ces moments où on lève les yeux de son livre et où surgissent des associations inattendues. Proust disait que c'est des pensées qu'elle éveille que la lecture reçoit sa dignité. Et là où l'expérience de la lecture est peut-être irremplaçable, c'est là où elle suscite cette pensée vivante, où elle fait venir des idées, où elle suggère des rapprochements insolites, où elle inspire, où elle éveille. Et c'est pourquoi tant d'écrivains lisent avant de se mettre à écrire, c'est pourquoi aussi tant de scientifiques aiment à lire de la poésie ou un roman pour relancer leur activité inventive, pour que surgissent des connexions inattendues. Alors cette expérience-là, bien entendu, elle n'est pas donnée à chaque fois que nous prenons un livre. Mais peut-être est-ce ce que les lecteurs fervents y cherchent, ces moments de révélation toujours fugaces, où le monde est comme neuf, intense, où on y trouve place poétiquement, où on voit ce qu'on ne voyait pas, où on est attentif, accueillant à ce qui nous entoure, comme aux pensées qui nous viennent. Et donc aussi, on l'a vu avec l'exemple colombien, si la lecture relance les liens de la pensée, les textes écrits s'avèrent encore d'excellents supports pour que beaucoup de choses circulent dans un groupe, déjà constitué ou formé à cette occasion. Lire, cela sert quelquefois à soutenir ou à relancer une prise de parole, des récits, des discussions, des conversations sur la vie, sur les thèmes les plus brûlants, tout en étant protégé par la médiation des textes. Alors, en bref, donc pour en revenir à cette question, pourquoi tenons-nous tant à ce qu'ils lisent? Celles et ceux que j'ai écoutés ont trouvé dans des lectures occasionnelles ou régulières non pas tant un marchepied décisif pour accomplir une ascension sociale que de multiples biais pour que le monde soit un peu plus habitable, pour se réapproprier un peu leur vie, pour la penser. Grâce à l'art d'un passeur, parent, ami ou professionnel, ils ont compris que ce qu'il s'agit de lire par le détour de l'écrit, c'est soi-même et le monde. Et dès lors, la lecture n'est plus apparue comme l'ingestion pénible de quelque chose qu'une autorité vous impose, mais comme un moyen de participer de quelque chose de plus vaste que soi, de relancer une pensée, une curiosité, de vivre de façon plus lucide, plus intense, amusante ou poétique, et de participer de quelque chose de plus vaste que soi. Alors, bien entendu, il est d'autres pratiques que la lecture qui ouvrent des espaces, qui nourrissent l'imaginaire ou qui réactivent la pensée, selon des modalités un peu différentes. Il en est peut-être même quelques-unes, mais pas tant que ça, qui laissent dans notre mémoire des traces d'une telle force, où nous pouvons faire retour pour trouver lieu dans les pires moments ou pour changer la tonalité du quotidien. Et il ne s'agit certainement pas d'idéaliser la lecture, et encore moins, me semble-t-il, de l'opposer à telle ou telle pratique, mais plutôt de lancer des ponts entre lecture et art, entre lecture et science, art et science, littérature orale et écrite, imprimée et numérique, création contemporaine et classique, etc., etc. De proposer des biens culturels qui nettoient un peu le regard et l'ouïe et permettent de regarder mieux afin de détailler le mystère, comme disait Roger Caillois, d'ouvrir des espaces où il y ait place pour le jeu, le détour, la rêverie, l'imprévu, l'étonnement. Alors je disais, grâce à l'art d'un passeur. Alors cet art de rendre désirable l'appropriation de l'écrit et plus largement les biens culturels, en quoi consiste-t-il? Comment devient-on lecteur aujourd'hui, en ce temps de l'anterosion de l'intérêt pour la culture écrite qui toucherait l'ensemble des catégories sociales? Bien entendu, sur cet aujourd'hui, comment on devient lecteur. Aujourd'hui, nous ne pouvons faire ici que des hypothèses. Nous ne saurons qu'après si les enfants d'aujourd'hui seront devenus ou non des lecteurs. Et c'est même parfois longtemps après que l'on s'approprie ce qu'on vous a transmis. Et en fait, c'est sur une vie entière qu'il faudrait apprécier s'il y a eu transmission d'un goût. Je dis transmission car, différentes enquêtes l'ont montré, la lecture est un art qui se transmet plus qu'il ne s'enseigne. Je ne parle pas de déchiffrer, je parle de la lecture comme pratique culturelle. Et ces enquêtes nous apprennent que les adultes qui lisent régulièrement ont, pour la plupart, noué dès l'enfance un autre rapport à la lecture que ceux qui lisent peu ou pas du tout. Le milieu familial a ici, on le sait, une influence déterminante. Toutefois, ce n'est pas réductible à un projet éducatif explicite que les parents mettraient en œuvre. C'est beaucoup plus affaire de climat familial, d'imprégnation. Ce qui se transmet, c'est un rapport, c'est une attitude. Mon père m'a montré que la musique était nécessaire, il ne me l'a pas enseigné, il me l'a raconté. Ce que le baryton Ludovic Tézier dit de la musique est vrai de la peinture, de la danse, du théâtre ou de la lecture. Les habitués des musées, des concerts, de l'art dramatique ou des librairies sont dans une large mesure des gens qui ont grandi dans des milieux où on leur a montré et raconté jour après jour que ces espaces culturels étaient nécessaires. Et c'est même la force de ces climats propres aux familles qui explique que la généralisation de l'élévation du niveau d'études n'ait pas entraîné un développement des pratiques de lecture ou une augmentation conséquente de la fréquentation des théâtres, des musées ou des lieux de concert. En effet, ce qui se transmet le plus, eh bien, c'est, semble-t-il, le retrait, la difficulté, l'évitement, observent les chercheurs, ou l'ambivalence. Car le monde de l'écrit a été et est encore, dans bien des familles, tout autant redouté, voire haï, que désiré. Là où la culture écrite a été longtemps, ou est encore, le privilège des dominants, s'en approprier peut être vécu comme une trahison des siens et de soi, particulièrement quand l'acquisition de l'écrit oblige à renoncer à la langue maternelle et à la culture dans laquelle on a grandi. Bien des enseignants se sont heurtés à la résistance, au mur de silence ou au vacarme, que leur opposaient parfois ceux à qui ils tentaient d'inculquer la lecture et l'écriture. Et l'extension de la prolongation de la scolarité n'a pas eu raison en une génération de ces rapports complexes où des familles transmettent parfois à leur insu ce qu'elles n'auraient pas souhaité passer, du moins consciemment. Leur crainte que leurs enfants ne s'éloignent d'eux, par exemple, ou le poids de leurs propres mauvais souvenirs scolaires. Si on tient un discours pour dire combien lire est un plaisir, mais que le corps, les gestes ou les intonations trahissent le profond malaise ou l'ennui que procure en fait cette activité, c'est ce malaise que les enfants entendent. Et c'est pourquoi aujourd'hui, de plus en plus d'associations et de professionnels, notamment de bibliothécaires, savent combien il est important de travailler avec les familles, de les associer au partage de l'écrit. Alors les contradictions entre les parents exposent aussi certains enfants à des conflits de loyauté. En France, si un seul parent a goût à lire, il y a de fortes chances aujourd'hui pour que ce soit la mère. Et il pourra alors être plus difficile à un garçon de s'assumer comme lecteur. Et à contrario, les enquêtes montrent qu'un enfant, je cite une enquête, un enfant dont les deux parents lisent souvent a plus de deux fois plus de chances de lire lui-même souvent qu'un enfant dont un seul des parents lit souvent. Mais plus précisément, comment les parents montrent-ils aux enfants que lire est nécessaire à la vie, pour reprendre l'expression de Tézier ? Eh bien, ça passe par des objets, mais aussi par des partages, et peut-être surtout par le sens attribué à cette activité. Les enquêtes font ressortir l'importance de la présence de livres à la maison, en particulier dans la chambre de l'enfant. Toutefois, celle-ci semble avoir une influence positive si le livre vit avec la famille et fait notamment l'objet de conversations, de partages. La capacité à établir avec les livres un rapport affectif, émotif et pas seulement cognitif semble décisive. À cet égard, le rôle des lectures oralisées a souvent été souligné, mais sans être vraiment explicité. Le fait de voir ses parents lire a fréquemment été mentionné lui aussi. Les chercheurs parlent à ce propos d'exemple parental, de mimétisme ou de transmission par imitation. Mais ce qui n'élucide pas grand-chose. Les enfants voient tous les jours leurs parents s'adonner à 1000 activités, faire leur lit, par exemple, sans avoir pour autant envie de les imiter. Et c'est là où l'attention portée à l'expérience singulière de celles et ceux qui ont pris goût au livre peut peut-être nous suggérer des pistes. Je voudrais donc m'attarder un peu sur ces questions. Que se passe-t-il quand un garçon ou une fille voit sa mère ou son père en train de lire ? Et que se passe-t-il quand il bénéficie d'une histoire contée ou lue à haute voix par un proche ? Alors j'emprunterai là un exemple à l'écrivain espagnol Gustavo Martín Garzo. Il raconte qu'à 6 ans, au retour de l'école, il entre dans sa maison. Il trouve sa mère dans la cuisine, seule, en train de lire. L'enfant reste là, fasciné par la vision de sa mère, qui tout d'un coup réalise sa présence, et finit par lui dire qu'elle lit un livre d'amour malheureuse, Le Chevalier des Bruyères. Pourtant, son visage, un livre d'amour malheureuse, et pourtant son visage rayonne, comme si elle lui cachait, dit-il, quelque chose qui a à voir avec les secrets les plus profonds de sa vie. Elle lui lit à haute voix un passage qui décrit une jeune fille, son corps, son visage, mais l'énigme reste entière. À plusieurs reprises, le jeune garçon va dérober Le Chevalier des Bruyères ou d'autres romans pour les lire cachés sous l'escalier, sans réussir à s'ouvrir à leur mystère, à rencontrer en lui-même ce ravissement, ce trouble qu'il a vu sur le visage de sa mère. « Je cherche cette émotion, le sentiment d'être en train de passer une frontière, mais je ne le trouve pas. » C'est seulement longtemps après qu'il le trouvera. L'expérience de sa mère que sa mère a vécue donc lui échappera longtemps. Et tout au long de sa vie, selon lui, ses lectures n'auraient été qu'une tentative d'élucider le mystère de la scène première. Dès lors, ses livres sont celui qu'elle lisait. Tous les livres sont Le Chevalier des Bruyères. Je l'ai pris en secret et durant un temps, rien ne me plut autant que de dérober les livres que j'allais lire et me voici à nouveau caché dans le réduit sous l'escalier. Pour moi, lire, c'est cela, être caché. Tous les livres sont ce livre unique et je me penche sur leurs pages en essayant de deviner les pensées de ma mère jeune et belle. Personne ne désire ce qui manque de mystère. Ce que dit Martín Garzo, ce que j'ai retrouvé dans bien d'autres souvenirs, c'est que le goût pour la lecture naît fréquemment du désir de voler l'objet qui ravissait l'autre, pour connaître son secret, s'emparer de la puissance du charme qu'on lui supposait quand il ou elle, car c'est souvent de la mère qu'il s'agit, était là, inaccessible, lointain, perdu dans ses rêveries. Alors bien sûr, il n'est pas donné à tout le monde de tomber sur sa mère lisant dans la cuisine, de pouvoir dérober des livres chez soi, de les manipuler dès le plus jeune âge. Et quand on grandit dans un milieu pauvre, tout peut même se conjuguer pour dissuader de lire. Peu ou pas de livres à la maison ou dans le quartier, un doute, je le disais tout à l'heure, quant à l'utilité de cette pratique, une préférence donnée aux activités collectives plutôt qu'à des loisirs considérés comme égoïstes, l'idée que c'est une activité propre à d'autres groupes sociaux, etc. Toutefois, même dans ces milieux, il est certaines familles où le goût avide de la lecture s'est transmis d'une génération à l'autre, par la mère souvent, par le père quelquefois quand celui-ci était un autodidacte en particulier, ou par les deux parents. Et plus encore que la présence ou l'absence des livres à la maison, plus que le niveau scolaire atteint par les parents, c'est l'intérêt profond que ceux-ci portaient aux livres, même s'ils n'y ont pas eu accès, même s'ils étaient analphabètes, leur rapport de désir ou de rejet pour ces objets qui ont facilité l'ouverture d'un chemin vers la lecture ou qui en a rendu l'accès difficile. Un peu à la façon dont l'attention que sa mère accordait au livre intrigua l'écrivain antillais Patrick Chamoiseau dans son enfance. Je le cite. « On m'avait effrayé avec des contes, bercé avec des comptines, consolé avec des chants secrets, mais en ce temps-là, les livres ne concernaient pas les enfants. Donc je fus seule avec ces livres endormis, inutiles, mais faisant l'objet des attentions de Maninotte, sa mère. C'est ce qui m'avait alertée. Maninotte leur accordait de l'intérêt alors qu'ils n'avaient aucune utilité. Je voyais son usage des fils de fer, des clous, des boîtes, des bouteilles ou des bombes conservées. Pourtant, je ne la vis jamais utiliser ces livres qu'elle mignonnait. » C'est ce que j'essayais de comprendre en les maniant sans fin. Je m'émerveillais de leur complexité achevée dont les raisons profondes m'échappaient. Je les chargeais de vertus latentes, je les soupçonnais de puissance. Là encore, c'est parce qu'ils représentent un passage vers un domaine mystérieux, vers les arcanes de la puissance que les livres sont désirables. Mais c'est aussi parce que, très tôt, des chants secrets portés par des voix aimantes, des comptines mêlées à des gestes de tendresse ont entouré l'enfant. Les grands spécialistes de la petite enfance ont tous souligné l'importance pour l'éveil sensible, intellectuel, esthétique de ces échanges précoces et en particulier de la capacité qu'ont les mères ou quelquefois les pères de se livrer en compagnie des jeunes enfants à un usage fictionnel, gratuit de la langue où alternent chansons, comptines, confidences, etc. Le goût pour la lecture dépend non seulement, dans une large mesure, de l'intérêt que les parents ont eux-mêmes exprimé pour les livres, mais encore antérieurement à cela, de ces échanges que la personne donnant les soins maternels a eus avec l'enfant, où le registre affectif, la sollicitation du corps et le jeu du langage, porté par les scansions et les intonations de la voix, sont étroitement imbriqués. Alors, une autre scène revient fréquemment dans les souvenirs des gens qui sont devenus des lecteurs, où c'est la voix, justement, qui est centrale. Et je voudrais vous livrer ici une scène que je vais aller chercher en Argentine, en l'empruntant à une jeune femme, Silvia Seoane. Écoutons-la. Quand j'étais petite, ma maman me racontait le soir la lumière éteinte l'histoire d'Alice au Pays des Merveilles. Je ne sais pas si elle avait lu un jour le roman de Lewis Carroll. Je ne sais pas si sa mère, un frère plus âgé ou une religieuse du collège où elle avait été pensionnaire lui avait raconté l'histoire. Je ne sais pas si elle avait lu une version de ce roman dans Le Trésor de la jeunesse, livre de chevet de son enfance, dont j'ai imaginé pendant de nombreuses années qu'il était la source de toutes les histoires. Je sais qu'elle tenait un petit commerce dans notre maison et que probablement pour cette raison, les aventures de cette Alice qu'elle me contait se déroulaient dans un monde d'arbres en chocolat Jack et de cascades de Fanta Orange et de Coca-Cola. Je sais qu'Alice arrivait à ce paradis en passant par un miroir, c'est pourquoi j'aimais l'armoire à pharmacie de la salle de bain, et je sais qu'il y avait le lapin et la reine de cœur. Je ne me souviens pas de beaucoup de détails de l'histoire, mais je me souviens de la voix de ma mère dans l'obscurité. Je me souviens avec une très grande netteté de ce que je voyais pendant qu'elle racontait. Je me souviens de l'émotion et de la merveilleuse sensation hallucinée. Je sais que j'étais convaincue que d'une certaine façon j'étais Alice. Tous les soirs, un monde parallèle naissait dans la voix de ma mère. Avec son récit, je traversais le miroir et j'entrais rituellement dans la fiction, comme j'y entrais quand elle me racontait l'histoire du roi David ou de mon arrière-arrière-grand-père carabinier dans le sud de l'Italie, l'histoire de Pierre et le loup et aussi celle de mon oncle Oreste, les histoires de mes arrière-grands-parents instituteurs en Patagonie au début du siècle et celle de la pierre qui bouge de Tandil, près de laquelle ma grand-mère enseignait, récit grâce auquel, j'en suis sûre, j'ai choisi la profession d'enseignante. Autant de narrations, de mots travaillés artisanalement par ma maman pour me créer des mondes. Chaque soir, de façon rituelle, la mère de Sylvia, nourrie du trésor de la jeunesse et de quelques épopées familiales, tissait des narrations qui enchantaient le quotidien, lui donnaient une dimension poétique avec des arbres en chocolat et des cascades de Fanta Orange. On voit que ces récits que Sylvia pensait sortis d'un livre qui était la source de toutes les histoires, comme elle dit, sont une affaire de bouche. Ils ont à voir avec la voix, mais aussi avec les premières nourritures que reçoit l'enfant. Et c'est sans doute pour cela que dans certains hôpitaux latino-américains, les médiateurs de lecture interviennent beaucoup à la demande des médecins auprès des enfants en état de dénutrition. Pourtant, dans la scène que raconte Sylvia, que raconte cette jeune femme, ce n'est pas le plaisir d'un retour au giron maternel qui domine, me semble-t-il. Pas même la fascination réciproque de la mère et de l'enfant. Par ces récits, la mère ouvre la place de l'autre. L'autre, ce sont tous ces gens des générations passées qui sont là dans sa voix. L'ancêtre carabinier, l'oncle Oreste, les grands-parents instituteurs, dont elle transmet les exploits, introduisant la petite fille au temps historique du siècle écoulé comme au temps biblique du roi David et un espace immense qui s'étend jusqu'à la Patagonie et le sud de l'Italie. Avec autant de variantes qu'il existe de sujets singuliers, une telle scène où la voix est essentielle revient dans de nombreux souvenirs évoqués par ceux qui ont pris goût au livre. Tantôt, l'histoire est lue, tantôt elle est contée, mais dans ce cas, l'enfant aurait senti que ces récits n'étaient pas inventés par l'adulte, mais que celui-ci prêtait sa voix à des histoires qui avaient une existence propre, tout comme Sylvia les imaginait sorties du trésor de la jeunesse. Le narrateur a lui-même quelquefois ouvert une porte vers les livres, telle cette grand-mère qui terminait ses récits à son petit-fils par cette phrase « Mais ces histoires que je raconte ne sont rien en comparaison avec celles que comptent les livres ». Très souvent, c'est la mère qui lit ou qui raconte des histoires, mais dans certaines familles, certains milieux, c'est le père, dans certains pays, la grand-mère, une tante, un grand-père. Parfois, dans ses souvenirs, l'enfant et l'adulte compulsent des livres côte à côte et ils lisent à haute voix à tour de rôle, ou c'est même l'enfant qui lit pour l'adulte. Parfois, ils entendent ensemble des histoires lues à la radio ou enregistrées. La scène a souvent lieu le soir et aide à traverser la nuit, mais des lectures partagées en plein jour sont aussi mentionnées. Remarquons encore que la scène oralisée est quelquefois située à l'école ou dans une bibliothèque. Et ce qui revient beaucoup dans toutes ces scènes vues comme fondatrices, c'est la mention de quelques mots incompréhensibles, mystérieux, qui auraient aiguisé la curiosité, la fascination pour le langage. C'est aussi l'origine inconnue, énigmatique pour l'enfant des récits. C'est encore l'association avec des nourritures liquides et sucrées, le lait chez l'un, le chocolat chez l'autre, la tisane parfumée au miel chez un troisième. Ce que l'on retrouve, c'est quelque chose de paradoxal. Un moment où était célébré le fait d'être ensemble, une intensité d'émotions partagées, une proximité charnelle, la caresse de la voix sur le corps ou les gestes de tendresse quelquefois mêlés aux mots, et dans le même temps, une certaine mise à distance, l'ouverture d'une autre dimension, la découverte d'un lointain, d'un autre temps, d'autres mondes. Si les livres ont été associés directement ou indirectement à ces moments, soit que l'adulte y ait puisé les histoires lues, soit que l'enfant ait imaginé que les récits en provenaient, ils ont eu de plus grandes chances d'être des objets privilégiés pour retrouver l'écho de la voix d'un être aimé, ce temps où les mots étaient encore imprégnés de la présence des êtres et des choses, forts de leur matérialité sonore et de leur capacité à intriguer, et pas seulement de leur signification, et en même temps, tout un monde des possibles qui s'ouvrait. La lecture à voix haute aurait ainsi été, jusqu'à une époque récente, l'une des grandes voies d'accès au désir de lire, l'une des scènes fondatrices d'une avidité pour les supports écrits, vécus avec une intensité variable selon les temps de la vie et pas forcément dans l'immédiat. Mais évidemment, toutes ces scènes que j'évoquais sont datées. Elles ont été recueillies auprès d'adultes ou quelquefois d'adolescents et renvoient à des temps où les nouveaux écrans, en particulier, n'avaient pas encore envahi nos vies, à un temps d'avant la révolution numérique. Sont-elles pour autant désuètes ? Ce qui m'inciterait à penser qu'elles sont encore opérantes aujourd'hui, c'est que ce climat propre à certaines familles, où les enfants ont établi un rapport affectif, sensible, et pas seulement cognitif avec les livres, est très proche de celui que recomposent des passeurs culturels dont j'ai suivi le travail dans des contextes éloignés de l'écrit. Dans des ateliers, ils s'emploient à recréer des situations d'oralité heureuse permettant une retraversée, un détour par ce temps où les mots sont mâchés, mordus ou bu comme du lait ou du miel, tout en ouvrant sur d'autres mondes, d'autres possibles. Et ils le font avec un certain succès. Non que les participants deviennent forcément par la suite des lecteurs réguliers, mais leur rapport au support écrit est modifié. Ils ont à leur égard moins de rejet, moins de défiance. Tout ceci, toutefois, à quelques conditions, que l'enfant, surtout s'il est jeune, puisse bouger si cela lui chante et faire l'usage qu'il veut de ce qu'il entend dans le secret de sa rêverie, sans que l'on contrôle cet usage, sans que l'on s'assure constamment qu'il a bien compris, et que l'adulte ne se mette pas trop en avant, mais prête sa voix au texte ou à la légende qu'il rapporte, qu'il s'en fasse le passeur. Ces dernières années, j'ai rencontré beaucoup de médiateurs qui avaient réussi à rendre l'appropriation de la culture écrite désirable à des enfants ou des adolescents ayant grandi très loin des livres, donc des anciens guérilleros, comme je le disais, des populations déplacées, des toxicomanes vivant dans la rue ou en prison. Enfin, bon. Et ils m'ont fait comprendre que ouvrir des temps, des lieux où le désir de lire puisse faire son chemin est une position très subtile à tenir pour que cela donne de la liberté, pour que ça ne soit pas ressenti comme une intrusion. Ça suppose de la part du passeur un travail sur soi, sur sa place, sur son propre rapport au livre, pour qu'on ne se dise pas « mais qu'est-ce qu'il me veut celui-là ? Pourquoi est-ce qu'il veut me faire lire ?» Ça suppose aussi que le temps de la médiation soit vivant. Et je pense là à ce jeune homme argentin qui m'avait dit à propos des adolescents fréquentant l'atelier de littérature qu'il animait dans un institut de détention pour mineurs, je le cite, « au début je crois qu'il venait pour notre énergie, pour notre désir, c'est cela qui était premier ». Transmettre le goût de lire est affaire d'appétence personnelle pour la lecture, de disponibilité à l'autre, d'écoute, d'attention, d'observation et d'aptitude à s'interroger sur soi, sur ses façons de travailler. de réflexion, de connaissance et d'intuition quand il s'agit de sentir quelles sont les œuvres qui résonneront pour tel ou tel, mais aussi de qualité de présence, d'énergie, de désir, de vie. Toutefois, l'art de la transmission ne nous assurera jamais de convertir définitivement des enfants à la lecture, surtout en un temps où les séductions sont multiples. Et il ne s'agit évidemment pas de partir en croisade pour répandre la lecture. Vous le savez, ce serait le meilleur moyen de faire fuir tout le monde. Henry Miller dit que les choses peuvent perdre toute valeur, tout charme, toute séduction si on vous traîne par les cheveux pour les admirer. Et il précise, dès l'instant que vous recommandez trop chaleureusement un livre, vous éveillez chez votre interlocuteur une certaine résistance. Si vous recommandez trop chaleureusement la lecture aussi, cela rend même agressif. Et il s'agit encore moins, je l'ai dit tout à l'heure, selon moi, d'opposer la lecture à d'autres pratiques, mais plutôt de multiplier les passages entre elles, d'articuler aussi littérature orale et écrite, bien entendu, imprimée, écran, comme le dit Michel Mello, pourquoi se priver de leurs vertus respectives. Alors, en guise de conclusion, je voudrais juste dire quelque chose qui peut paraître un peu provocateur, mais faire la lecture aux enfants, partager avec eux des expériences culturelles, non pas pour unique objet, unique enjeu, ni peut-être même pour principal enjeu de former des lecteurs, à l'heure où leur part va diminuer en bien des lieux. On ne juge pas du bien fondé de la gymnastique dans l'enfance par le fait que, devenu adulte, on pratiquerait régulièrement le basketball ou le saut en hauteur. Ou de l'intérêt d'éveiller aux mathématiques par la fréquence d'une curiosité ultérieure, régulière pour l'algèbre ou l'astronomie. Quand bien même, les enfants avec qui vous lisez, ou une partie d'entre eux, ne deviendraient pas des lecteurs, vous n'auriez pas perdu votre temps. Vous auriez garni leurs poches, vous auriez rempli leur mal au trésor de mots, de récits, d'images dont ils pourront se saisir pour ne pas se sentir nus, perdus, face à ce qui les entoure ou face à leur monde intérieur. Vous les auriez aidés à fabriquer des souvenirs qu'ils revisiteront longtemps après. Vous auriez ouvert des espaces de jeu, de rêverie, de pensée, de curiosité, d'exploration de soi et du monde, d'échanges qui sont essentiels au développement psychique, intellectuel, esthétique. Vous auriez contribué à leur présenter le monde, à le rendre un peu plus habitable. En ces temps de grande brutalité, vous auriez préservé des temps de transmission poétique qui échappent à l'obsession de la rentabilité immédiate et au vacarme ambiant. Pour cela et pour bien d'autres choses encore dont nous allons probablement parler, vous auriez fait œuvre plus qu'utile. Et je vous en remercie et je vous remercie de m'avoir écouté.